Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanray, présenté par son fidèle chroniqueur Frédéric Gourmet. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Mirwais, musicien, producteur et écrivain. Il était connu pour avoir été le guitariste de Taxi Girl avec le chanteur Daniel Darc, puis par ses disques électro et surtout par sa participation aux albums Music et American Life de Madonna, qui lui ont apporté un succès interplanétaire. Mais l'homme ne s'est pas contenté d'être un des membres du groupe français devenu culte, le plus célébré aujourd'hui avec Marquis de Sade, d'être à l'avant-garde de la musique électronique en France et donc dans le monde, et d'avoir réussi à rendre Madonna enfin écoutable. Il est devenu depuis peu un écrivain, et un écrivain reconnu pour son premier roman « Les Tout-Puissants », paru en 2022 chez Séguier, et dans le premier tome de sa biographie « Taxi Girl 1978-1981 », toujours chez Séguier. Nous l'accueillons aujourd'hui pour son dernier roman « Nihilium », qui raconte de l'intérieur la trajectoire chaotique et édifiante d'un jeune nihiliste de 15 ans, dealer à 16 heures et black bloc occasionnel, fasciné par la violence et la littérature, Dostoïevski, Philip K. Dick, William Burroughs et Nietzsche. Bonjour Mirwais.
Bonjour Frédéric.
Alors, après Les Tout-Puissants et Taxi Girl, la bio, comment vous est venue l'idée de ce roman et surtout la figure de cet adolescent perdu entre la rage et l'ambition sans frein ?
Oh, c'est très simple, ça fait des années. Moi, je marche depuis quelques temps artistiquement. Parce qu'on peut dire qu'il y a une telle masse de gens qui pratiquent l'expression artistique ou l'art depuis tellement de temps. On a une telle accumulation que je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle en anglais l'update. Si on prend par exemple, une œuvre, La Joconde, il y avait un photographe peintre, Rainer, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui, dans les années 2000, qui repeignait en fait La Joconde. Donc bon, c'est assez intéressant, les updates. Et je trouve que L'Orange Mécanique d'Anton Burgess, dont tout le monde connaît le film de Stanley Kubrick, L'Orange Mécanique, n'a jamais été vraiment updaté, remis au goût du jour. Et c'est ça la trame du livre, c'est-à-dire de dire, voilà, aujourd'hui... On assiste au déclinement de la violence, surtout chez les jeunes, chez les mineurs. Tout le monde se pose des questions et j'ai envie d'y répondre. Voilà.
Alors, vous êtes inspiré quand même de faits réels, hein, comme on dit.
Plus ou moins, c'est un mélange.
En tout cas, d'une époque.
Oui, bah, là, en ce moment, ça se passe en ce moment. Mm-hmm. ce sont des. Mon héros qui s'appelle Juan Nielski, mais en fait, son vrai. Prénom, c'est Jean-Marie, mais il le déteste. Il déteste son prénom.
Oui.
Il dit d'ailleurs à ses parents, mais vous êtes dingue, vous êtes dingo. Depuis Louis XIV, il n'y a plus personne qui prénomme son enfant Jean-Marie à Paname. Donc c'est très drôle. J'ai beaucoup de sympathie, hein, même s'il est atroce, ce personnage, parce qu'il est très drôle. Donc du coup, voilà, quoi, c'est-à-dire, il vit dans le 6e, rue d'Assas, il participe aux manifs. Alors attention, hein, il participe aux manifs pour piller, et aussi pour se venger de la CCF, ou ça pourrait être n'importe quelle autre banque, qui un jour lui a avalé dans une... C'est véridique, hein, c'est-à-dire, j'ai une amie, elle avait 200 euros, non, je ne vous les prends pas, parce qu'elle était feignasse, la meuf au comptoir, et elle est dans la machine, il lui avale, ils n'ont jamais voulu la rembourser. Elle n'avait pas de reçu. Voilà la réalité. C'est-à-dire. Donc, et depuis, il se venge, parce qu'il lui arrive la même chose à ce jeune Juan. Il se venge en matraquant, en défonçant la CCF et en brûlant les bordereaux. Voilà.
Cet ado n'a pas de valeur, d'idéaux politiques, pas plus d'histoire que de sens historique. Est-il le reflet d'une nouvelle génération sacrifiée ou celui de toute une époque, voire d'une civilisation ?
C'est-à-dire, moi, dans mon livre « Les Tout-Puissants », j'avais mis sous forme poétique, parce qu'évidemment, il y a très peu de gens qui l'ont lu, dont toi, et personne n'a rien compris. Mais on dit souvent que le langage articulé a signifié la fin de la préhistoire. Moi, je dirais qu'Instagram, donc l'image toute-puissante, a signifié la fin du langage articulé. Voilà, et donc les gens... réagissent d'une manière instinctive, comme le héros du roman, Juan, qui a 15 ans, qui va dans les manifs, qui voit en plus... parce qu'en plus, attention, hein, il y a une Je le dis même dans mon livre, alors moi je travaille avec Madonna, tout le monde le sait, je lui fais dire à un moment donné, mais de toute façon plus personne porte un t-shirt de Madonna. Par contre le merveilleux Pablo Escobar, il cartonne en t-shirt, mais ils sont tous là avec le film de Brian De Palma, Scarface, tout ça. Tout le monde, et tous les jeunes ils sont fascinés par ça, ça veut dire quelque chose, c'est parce qu'ils savent très bien que la corruption et la legge, la loi comme on dit en italien, c'est-à-dire c'est ça le problème.
Vous n'êtes pas tombé dans les clichés parce qu'il est délinquant, dealer, black bloc, mais c'est un quartier qui vient des beaux quartiers.
Oui, il vient de la rue d'Assas, du 33. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 33 rue d'Assas, mais 33, il va au Luxembourg, il connaît très bien et il sait très bien que ses parents qui travaillent dans la publicité, qui font partie de la NGC. Alors, la NGC, c'est une invention, c'est la nouvelle gauche caviar. C'est-à-dire, parce que. Il faut savoir que les gens qui ont... alors, ce n'est pas forcément des publicitaires. Hein, j'ai des amis publicitaires, mais bon... les gens qui ont investi, disons, dans les années 90-2000, dans les quartiers un peu en déshérence du bas du 11e, ont fait pas mal de fric. Et moi, je les vois parce que j'habite dans le 6e. Moi. C'est-à-dire, depuis longtemps, depuis que j'ai gagné de la thune avec Madonna. Donc, je les vois arriver du Marais, parce qu'ils ont fait une plus-value. Et donc c'est ça la NGC en fait, parce que c'est pas les anciens de la gauche caviar. La gauche caviar, alors tout le monde sait, c'était quoi, DSK, des gens comme ça, vous voyez, Fabius, les socialos. Maintenant on a une nouvelle forme, et qui mangent sans gluten, et enfin voilà quoi, c'est ce genre de trucs.
Là ce sont des pubards, mais qui ont
comprend
très vite.
C'est pas que des pubards, il y en a plein.
Les parents, je veux dire, les parents de Rohan Ilski, ce sont des pubards, et on comprend très vite qu'ils ont laissé leur enfant livré à lui-même très tôt.
Ils sont là avec leur call avec les États-Unis. Et alors, je caricature, parce qu'évidemment qu'ils ne sont pas tous comme ça. La femme, elle travaille aussi, bien sûr, mais elle est intéressée par se refaire faire le portrait, par la dernière machine à ultrasons.
Et les loisirs, c'est Netflix. Ils sont scotchés sur Netflix.
Bah, moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est-à-dire, moi, je vois des gens extrêmement friqués. Ils sont scotchés sur des séries qui vous racontent... Je l'explique dans le roman, c'est-à-dire maintenant il y a des séries, ils sont là, c'est un pauvre mec à Hollywood qui dit « Allez, j'ai fait une série sur Einstein », et les gens ils croient que c'est la vie d'Einstein. Enfin, moi je peux vous parler de ma vie, je peux vous parler aussi de ma relation avec Madonna, c'est très très loin de la réalité ce qu'on voit, sur elle, sur moi, sur donc il y a des gens qui font des séries. Et donc ça, c'est... C'était quoi le dans les années 80, il y avait un slogan, la télécommande, j'obéis. C'est un peu ça, non? Ouais. C'est-à-dire, les gens croient qu'on comprend les gens à travers des séries. Ah, mais... Et les gens me disent tout le temps, moi, je regarde pas de séries. Les gens, ils me disent... ah non, mais tu regardes pas de séries, mais tu devrais l'avoir, celle-là. Mm-hmm. Celle-là, elle est différente. Mais
oui, il y a une injonction. Ouais.
Mais ils se font avoir.
Ouais. Ce qui est étonnant, c'est un ado qui n'est pas du tout attiré ni par le sexe, ni par l'amour.
Bah, l'image de la génération, la Gen Z, comme on dit, et maintenant, il y a la génération plus jeune qui est alpha. Mais c'est normal. Il faut comprendre, dans le catholicisme et aussi dans les religions révélées, l'islam, etc., le mariage, le truc, c'est le sexe, c'est extrêmement fléché et cadré, mais c'est, comme disent les jeunes, un climax, un point haut. Après l'adolescence, dans le catholicisme, tu arrives enfin au mariage et tu connais enfin ça. Là, c'est 12 ans, il y a le porno, il y a les jeux vidéo, il y a tous les stimuli. Donc tout ça, ça rentre en concurrence avec le sexe. Donc pourquoi il serait plus attiré ? Alors évidemment, il y a Freud et le développement psychosexuel, bien sûr. L'adolescent, l'enfant répond à des besoins, mais... c'est en train de diminuer, notamment par l'imprégnation de l'image et la fin du langage articulé aussi.
Alors, ne plus être capable d'aimer, c'est ça le nihilisme ? C'est une de ses formes les plus aiguës ?
Non, moi je pense, mon héros, c'est une transition vers quelque chose de mieux. C'est qu'on a atteint un point bas, et je pense que... Et là, je mets une note d'espoir. Hein. Ah, Nihilium, pourquoi je l'ai appelé comme ça ? C'est une sorte de néologisme qui veut dire l'empire du néant ou rien. Et je le situe avant mon premier livre qui s'appelle Les Tout-Puissants, parce que c'est une trilogie. Donc c'est le premier tome de la trilogie, donc on appelle ça, dans le langage Star Wars, un préquel en français. Donc du coup... Ma théorie, bon, les gens ne sont pas obligés d'y souscrire, mais j'y crois fermement. Dans Les Tout-Puissants, j'exposais un régime, une tyrannie marchande qui était en train de se mettre en place, et j'ai sorti en 2022, ça faisait 10 ans hein, que je la voyais avec Google, la surveillance généralisée, les outils numériques, voilà, qui sont un peu fascisants, en tout cas totalitaires dans le sillage du commerce. Là, c'est avant, ça se passe avant. Comment on est arrivé à la tyrannie marchande ? Le signe qui ne trompe pas, c'est quand le langage se modifie. Et donc, le langage de mon livre est absolument hilarant, mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre, c'est un mélange d'argot. C'est pour ça que je me suis inspiré de l'Orange Mécanique, parce que dans l'Orange Mécanique, il appelle ça le langage de l'Orange Mécanique, c'est du NatSat. C'est-à-dire, en russe, je crois que c'est teenager ou 10, NatSat, je crois que c'est 10. Donc, pour désigner les teenagers violents. Et l'idée, c'est de dire, on est dans une espèce de tour de Babel, où plus personne, il y a des jargons, des sociolectes, tout le monde, comme dans sa bulle, on ne se parle plus, c'est tout, c'est terminé. Donc les gens vont se battre. Mais après ça, donc, le deuxième tome, ça va être Les Tout-Puissants, tyrannie marchande, et là, système totalitaire qui se met en place, mais sous forme de marchandise. Et il y aura un troisième tome qui sera plus... qui sera une résolution et qui sera plus heureux. Et, parce que moi, je crois pas à la tyrannie, moi.
Oui, alors pour lui, pour le personnage principal, il y a plus de vérité, seule la force compte finalement, c'est en cela qu'il est contemporain.
Bien sûr, de toute façon on le voit depuis 8 ans, 10 ans avec Trump, les autres, et tout le monde le copie. C'est-à-dire, que ce soit à gauche ou à droite, le populisme c'est la même chose. Vous savez Schopenhauer dans son petit fascicule, L'art de se faire respecter, il parlait des attaques ad hominem, c'est-à-dire les attaques sur la personne. On vous attaque sur un fait, c'est pas la recherche de la vérité qui intéresse les gens. Enfin, pour se défendre, c'est pas la recherche de la vérité. Quand on conteste quelqu'un, c'est tout de suite, ah oui, mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, voilà. C'est comme ça, les attaques de Milan. On connaît ça depuis Schopenhauer, qu'il a bien cristallisé dans son livre.
Lacan disait, une fois la vérité disparue, ne reste plus que le délire ou l'hallucination. Il en est où, Juan Nilsky, là-dedans ? Il est entre dans le délire ou l'hallucination ?
Il est dans une hallucination complète. C'est-à-dire... mais d'ailleurs, si vous croyez... Alors, des gens qui contestent Hannah Arendt sur son livre « Les origines du totalitarisme », elle, sa théorie, elle est intéressante. Elle dit que les systèmes totalitaires... Pour elle, il y en a eu que deux dans les années... c'est-à-dire le stalinisme et le hitlérisme, enfin, les nazis. Elle dit que c'est quoi un système... Quelle est la différence entre une dictature et un système totalitaire ? Moi, j'y crois volontiers. C'est qu'en fait, les systèmes totalitaires, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cassent tous les partis. Ils ne veulent pas de parti d'intérêt. Et une fois que ce fait est établi, ils donnent une autre version de la réalité aux gens. Et donc, d'ailleurs, il y a un film extrêmement bien qui n'a pas été compris... si les gens ne veulent pas lire Narend, c'est Starship Trooper, le premier. C'est assez simple, c'est une guerre interstellaire où on a bien compris. Les gens n'ont pas compris parce qu'il utilisait une imagerie nazie. Des gens blonds qui combattent des horribles araignées et c'est une guerre éternelle. Et les araignées, c'est vrai qu'elles sont horribles, elles sont horribles, elles sont monstrueuses. Et les nazis, c'est de la propagande, quoi. Et les gens pensaient que c'est... Alors, c'est tout le contraire. C'est une très bonne description de ce que les nazis donnait dans les années 30 la description des juifs. Les araignées, si vous transposez en fait dans l'Allemagne des années 30, les araignées que vous voyez dans ce film qui sont horribles, etc., c'est les juifs des années 30. Donc il faut les écraser, il faut les... voilà. Et c'est ça. Donc le totalitarisme, c'est ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est une autre version de la réalité. Et on est en train de nous la faire, ça, cette version. Google, IA, tout ça, quoi.
Il n'y a de jouissance que de la vérité, ajoutait Lacan. Alors ce néo-nihiliste n'est-il pas incapable de jouir finalement, prisonnier de ses pulsions qui tournent à vide ?
Oui, il est complètement débile.
Et qui finissent par se retourner contre lui ?
C'est-à-dire, il est débile dans un sens et en même temps, il essaie de comprendre. En fait, le personnage me fait penser pas mal à Daniel Dark, qui n'était pas débile, mais bon, qui avait ce côté, il était inscrit à la Fédération anarchiste. J'ai l'impression qu'il ne comprenait pas très bien les choses, hein, mais en tout cas, il avait... ce désir d'y aller dans les manifs et tout ça. Et à moi-même qui ne comprenais pas bien, je lisais Nietzsche, mais je ne comprenais pas très bien. J'étais jeune. Mais j'étais attiré. Voilà, ce personnage, c'est un mélange de... ce genre de pulsion qui... Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes jeune, vous connaissez rien à l'amour, ou vous voyez, si vous êtes un garçon, vous voyez une femme qui vous plaît et vous savez pas pourquoi vous êtes attiré. Bah, voilà, lui, il est attiré par Nietzsche, la philosophie, parce qu'il a l'impression d'avoir un prisme, de comprendre, parce que sinon sa vie, aller juste dans les émeutes, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, surtout quand on est un gosse de riche.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, en présence de Mirwais, qui nous parle de son dernier livre, Nihilium, paru chez Séguier. Alors, ce qui lui manque surtout à ce gamin, c'est le sens du temps. C'est peut-être la plus grande dépossession de notre époque, en fait. On n'est que dans l'instantané, l'immédiateté, la consommation qui vire à la consommation.
Bah oui, complètement. Ça, c'est identifié depuis au moins presque 8-9 ans à travers les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des mouvements inverses, il y a des gens qui essaient de résister d'une manière individuelle, qui limitent leur temps, commencent à comprendre. Parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Si vous voyez, on parle d'œuvre sociale, de legs pour l'humanité, on prend des œuvres qui nous ont été transmises, que ce soit les statues grecques ou la Joconde ou n'importe quelle peinture du passé, vous approchez. Je suis pas là à déifier ces artistes. Regardez, comme dirait Juan Nuelski, dans mon roman, il y a du level, c'est-à-dire il y a un niveau très très haut, c'est-à-dire d'expression artistique qui nous est transmis et qui nous fait quelque chose, c'est-à-dire qui nous aide dans la vie. Regardez bien, par exemple, vous regardez les réseaux sociaux sur votre portable, vous pensez que c'est bien, regardez-le sur un écran. C'est tout pourri, c'est de la basse résolution, c'est nul, on voit bien que les capteurs, là je parle sous l'aspect technologique, qu'est-ce que ça va nous laisser? Rien. Il ne va rien nous laisser dans 20 ans. Donc il y aura du 4K, même c'est tout pourri parce que tout le monde le sait que les nouveaux téléviseurs à LED sont nuls, il n'y a plus de profondeur de champ, etc. Ils sont en train de nous léguer ça. Il va y avoir des mouvements inverses, vous verrez.
On va marquer une première pause musicale avec un morceau de Mirwais, évidemment, qui s'appelle Democracy.
Thank you.
Mirwais, Democracy, qu'on vient d'écouter. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Mirwais, les paroles de ce morceau évoquent une génération sacrifiée, inutile et vide, prête pour son propre sacrifice comme un Jésus dépouillé. Blanc Generation, chantait déjà Richard L. en 1977. L'ado que vous avez été a-t-il des points communs avec le Juan Nielski de 2026 ?
Complètement. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce personnage outrageant, violent, c'est un peu mes propos, hein. Ou ce qu'on se disait avec Daniel, ou les gens qui ouvrent les yeux quand même, hein. Vous savez, les gens, quand ils me rencontrent, depuis Madonna, hein, je parle, l'accession au fame, ils voient quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, je vois les gens tels qu'ils sont, et depuis toujours. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous avez du succès que vous voyez pas la société. C'est-à-dire, ils vivent tous dans des bulles, ces gens-là. C'est-à-dire, alors bien sûr, ils sont tous là, là, on parle même pas de Madonna, mais elle n'a pas Madonna, elle est seule parce qu'elle ne peut pas aller dans la rue, mais bon, ça va, quoi. Elle a fait un petit travail. Enfin, je sais pas. Il y a des gens, ils meurent tous les jours, la guerre. Moi, je viens. Alors, ma sensibilité vient aussi que moi, j'étais réfugié politique, hein, à l'époque de Taxi Girl, au tout début. Le peu de bien qu'il y avait en Afghanistan, moi, j'allais faire la queue. En plus, à une époque où les étrangers n'étaient pas super bien accueillis, hein, dans les centres. Hein. C'était Porte de la Chapelle, il fallait arriver à 4h30 du matin, ils vous fermaient la porte au nez à 7h, dans le froid, par moins de 10 degrés. Donc, et jusqu'à 2010, j'ai été réfugié politique. Donc, je crois savoir de quoi je parle. Et aujourd'hui, le rôle des artistes, pour moi, c'est pas d'aller faire la révolution, je crois pas du tout. Enfin, je crois au militantisme, même si vous êtes artiste, mais alors, faut vraiment le faire, alors, dans ce cas-là. Faut y aller, faut mouiller de sa personne. Mais c'est déjà pas mal pour les artistes de... Moi, ce que je demande aux artistes, la première chose, regarde l'époque. Commence à voir les choses. Même si tu comprends pas tout, essaie de traduire ça artistiquement. Et non, au lieu de ça, ils sont là. Après, c'est pas une critique, parce que... C'est pas vraiment une critique, parce que... Ils ont peut-être pas, beaucoup d'artistes jeunes n'ont pas forcément les moyens, ni intellectuels, faut leur pardonner, entre guillemets, je veux dire, mais bon, une fois que vous arrivez à 30 ans, c'est bon, quoi. À 20 ans, vous êtes naïf et innocent, ou à 15, mais... Et donc, le jeune Juan de mon roman, il a 15 ans, comme dans L'Orange Mécanique, il a 14 ans. Donc, c'est la violence qui s'exprime, parce qu'il comprend pas très bien, et puis il voit surtout, comme il est intelligent et que ses parents sont intelligents et éduqués, il voit le monde tel qu'il est, il voit les arnaques, il voit la corruption. C'est-à-dire, j'en reviens toujours à mon t-shirt. Scarface, il y a plus de t-shirts qui se vendent que Taylor Swift, à mon avis.
Du temps de Taxi Girl, c'était une époque très politisée où la jeunesse était très engagée. Il faut savoir que, par exemple, le clavier de Taxi Girl sortait avec Nathalie Ménigon.
Non, avec Joël Aubron.
Avec Joël Aubron, pardon. Ouais. Et donc, c'était l'ultra-gauche.
J'étais inscrit à la Fédération anarchiste. Mmh. Mais après, je le précise, et j'ai précisé dans mon roman, la première partie de Taxi Girl, c'est que... c'est pas qu'on était plus intelligents que les autres, c'est qu'on avait compris que, bon, ça y est, c'était bon, la gauche allait passer... que ça y est, la société allait changer, et que de toute façon le combat on était trop cynique pour aller dans le magma politique, parce que bon, le magma politique, sans faire le poujadiste, hein, c'est-à-dire tous des pourris quand même, quoi, c'est-à-dire tous les jours il y a des histoires de corruption, donc à un moment donné c'est bien de se mettre en retrait tout en connaissant le sens du vent et en essayant d'aider individuellement les gens autour de vous. C'est déjà pas mal, vous savez.
Alors, il faut quand même préciser que c'est une satire et que c'est très drôle, votre
roman.
Oui,
c'est très drôle. Ouais.
Vous ne connaissez pas ce sens de l'humour. Vous avez une image un peu dure, austère, parfois sévère.
Dans la réalité, je suis très drôle.
Voilà. Ça apparaît.
Mais j'ai pas envie de m'exposer. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est que si vous donnez trop d'informations sur vous, elle est utilisée contre vous. C'est-à-dire, on voit bien, vous dites un truc, que ce soit politique ou sur n'importe quoi, là, aujourd'hui. Et c'était comme ça avant aussi. Hein, puis il y a des gens qui vous veulent du mal. Dans cette société, il y a des gens qui vous veulent du mal.
C'est la République des haters.
Comment ?
La République des haters.
Oui, mais ça encore, à la limite, c'est des jeunes de 12 ans qui sont derrière l'ordinateur. Moi, ce qui est génial, c'est que quand je sors, alors moi, je sors rarement des titres, mais des amis à moi qui essaient de débuter, qui ont des commentaires, alors que parfois, je les aide moi-même, et le son, il est impeccable, franchement. Hein, c'est-à-dire, ouais, il y a encore du boulot, ils ont 12 ans, les gars. Ouais, c'est pas mal, il y a encore du boulot, mais ils sont avec leur vieille carte son. Alors, c'est mignon, parce que. Mais quand même, ils font du mal, quoi.
Ouais.
Ils s'adressent à des gens qui ont 25 ans, qui essaient de s'en sortir. Là, c'est, ouais, je ne suis pas renversé, alors que. Et ça m'arrive à moi aussi. Et moi, je le sais, puisque ça fait 40, plus de 40 ans que je fais de la musique. Je les appelle, je leur dis, viens faire du son avec moi, mais. Parce qu'ils cherchent l'attention, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, le problème des haters, c'est le problème de l'attention. C'est un peu. On peut en revenir, c'est psychanalytique. C'est l'enfant qui n'a pas été aimé ou qui n'est pas aimé. Bah, vas-y, aime-moi, mais bon, en faisant du mal aux autres. Non, non, il va falloir que ça progresse tout ça.
Et vous-même, vous tapez assez fort et même très fort sur tout le monde dans ce livre à travers votre
J'ai
personnage.
oublié les acteurs.
Alors,
C'est dommage.
vous tapez sur les pubards, les journalistes, le monde de l'édition, les écrivains. Vous n'avez pas eu peur du retour de bâton?
Je m'en fous.
Ouais, vous êtes libre.
Non, je suis libre. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, après, moi, je critique le système de l'édition. Je critique pas les écrivains. J'ai trait de scribouillards qui sont prêts à se suicider parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'écrivains malheureusement qui donnent leur vie. Moi, j'ai assis. Bon, on va parler. Hein, je parle du salon de Nancy. Hein, j'étais invité. Et là,
Mais c'est des pages terribles.
mais j'arrivais pas à le croire. Surtout, c'est-à-dire, j'espère qu'ils m'inviteront plus jamais. Je m'en fous en fait. C'est-à-dire, c'est que l'idée, c'est que c'est avec affection que je dis oui. C'est des convois de scribouillards qu'on emmène au salon pour remplir, style, genre le salon de Colmar, parce qu'il leur faut plein d'écrivains. Mais en fait, moi, c'est affectueux. Quand je parle des scribouillards, c'est-à-dire c'est des gens qui passent 5 ans de leur vie, parfois à écrire un livre, un super livre, qui est rejeté par tous les éditeurs, ou qui n'a pas de promo parce qu'ils sont vieux, parce que si, parce que ça, alors que c'est des puits de science. Et. On voit dans cet endroit-là, moi j'arrivais pas. Moi j'étais extrêmement bien traité et je m'en plains pas. Mais je veux dire, le dîner des auteurs, le truc, ça c'est sous les faces de la République, hein, c'est-à-dire quand même, hein, c'est dans la salle, Nancy, etc. Le gros truc, champagne, machin, et tous les autres sont pas invités. Moi j'ai une amie écrivaine, elle a été en plus dans une grande maison d'édition, je vais pas dire laquelle. 7 h du matin, le train, elle a tourné tout. À 7 h, il n'y avait rien, pas un café ouvert, pas d'attaché de presse. Elle revient, elle passe toute la journée, elle n'en vend pas un. Il y avait un troupeau de gars, une meute de gens qui passaient, parce que moi je l'ai fait 5 minutes. Hein. Personne n'achète votre livre, ils le prennent avec dédain. Mais c'est quoi? Donc voilà, c'est-à-dire, moi je dis la vérité, c'est tout. C'est-à-dire, et donc si je critique. Et donc elle est revenue par le train de 22 h, on lui a pas offert un café, rien du tout. Et moi, j'arrive. Et le champagne et le truc, non, ça va pas, ça va pas. Enfin, pas pour moi, parce qu'en plus, je dépends pas de la littérature, je m'en fiche, moi, financièrement.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Mirouez qui nous parle de son dernier livre, Nilium, paru aux éditions Séguier. Une grande part du malheur de ce jeune homme ne vient-il pas du fait qu'il a compris Nietzsche un peu de travers? Parce que Nietzsche n'a jamais fait l'apologie du nihilisme, ni même du droit du plus fort. Il l'a diagnostiqué comme personne, comme Freud le fera après en parlant de pulsion de mort.
Il comprend rien.
Oui, il le prend vraiment à l'envers.
Oui, mais alors là, j'insiste beaucoup sur. Enfin, je vais insister beaucoup sur un outil qui est utilisé depuis, je veux dire, toujours l'Antiquité. Il l'utilise à sa façon. C'est-à-dire, Naomi Klein a appelé ça la stratégie du choc. Utiliser les événements comme véhicule pour avancer là où vous voulez. Trump, chaque fois, là, on voit bien Trump, chaque fois qu'il y a un gars, il avance. Vous voyez, il avance, regardez, ils ont essayé de me tuer, etc. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise Nietzsche comme véhicule. Il comprend rien, voilà. C'est-à-dire, le nihilisme, il comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais il avance. Parce qu'il se dit, voilà, moi, je. Parce que, en fait, j'ai pas mal fréquenté, notamment à l'époque de Daniel et tout ça, des anarchistes, des autonomes, des gens d'extrême droite, c'était un peu le même, c'était la même chose en fait. Ils cherchaient l'aventure, ils comprenaient rien, ils n'avaient pas vraiment d'engagement politisé au fond, et ils se servaient de slogans en fait, pour avancer là où ils voulaient, pour déployer leur pulsion freudienne, notamment de violence, de sexe, de... Parce que l'être humain, et il n'arrête pas de le répéter dans le roman, hein, avec son langage à lui, ce qu'ils veulent, la plupart des gens, c'est... les politiciens, hein, là on parle des politicons, hein, comme ils veulent le gros bureau avec le truc en cuir, du cognac et des meufs, hein, voilà, c'est ça qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire, et je pense que beaucoup de politiciens ils veulent ça encore, et c'est ça qui me gêne beaucoup.
Vous évoquez même une régression tribale, c'est l'or et les femmes, c'est ça l'unique désir des dirigeants.
On regarde bien dans le rap, alors le rap d'aujourd'hui ne véhicule plus cette idée après MeToo, mais si vous regardez bien les propos des gens du rap originel, Ice-T, ouais, je me souviens d'une interview d'Ice-T, mais pourquoi vous mettez des pochettes avec un flingue et une bombe sexuelle à moitié dénudée, vous dites, ah, mais c'est ce que veut le peuple, de la chatte et des flingues. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est très freudien tout ça, c'est-à-dire c'est que les pulsions ne sont pas maîtrisées, et il est l'expression exacte de la régression de la société, parce qu'à cause de la disparition du langage articulé, c'est-à-dire langage articulé, c'est pouvoir construire un langage, c'est-à-dire et déployer ses idées. Bon, c'est les images, c'est bam bam, si, arrête, vas-y, il n'arrête pas de dire, tu captes, t'as capté, comme en banlieue, ils disent tout ça. Je me moque pas d'eux, je dis juste que c'est ça, c'est une réalité. Ils ont réduit, c'est une nouvelle langue, c'est une LQT de type années 30. Voilà, le jargon est en train de se réduire. Et donc, la conséquence, c'est les gens deviennent de plus en plus abrutis. C'est pas de leur faute au départ, mais c'est la réalité. C'est un constat. Et donc, il faut se battre contre ça aussi.
Vous êtes toujours sur l'YFM 93.1 dans La vie est un roman. On va marquer une seconde pause musicale avec un autre morceau de Mirwais qui s'appelle DMCY. Why get my blood straight? Drawing circles in my head. Future in the rear view, running lines. The past is shed. Metal murmurs underneath. Like a rubber neath the skin. Every mile upon your truth. Heavy silence folding in. Heat wave in the light, but she drifted past the bone. There is no democracy. Hope flickers in the dust. Asking who we might become. Pushing up the same stone. Sunrise is the same decree. Sisyphean whisper say. Break, rebuild, repeat. Systems in my shadow box, in my shadow box. Changing faces in the haze. I just put them off the ground. Breaking for another phase. Wheels turning on a heartbeat, on a heartbeat. Face moves like a thin veil. Freedom is a murmur, but the night will not unveil. All roads in the cipher. Say the journey is the fee, the fee. All truths in the ruins. Struggles cost to be and free. Call in what you want, but the truth will tell the case. There is no democracy. Waving the logic, mercy drifting past the bone. Hope flickers in the dust, asking who we might become. Pushing up the same stone, sunrise is the same decree. Sisyphean whisper saying, break, rebuild, repeat with me. Systems in my shadow box. Changing faces in the haze. Idols built on empty ground. Waiting for another phase. We'll stay on our heartbeat. Fate moves like a thin. Mirwais, DMCY. Mirwais, de quoi parle ce morceau?
DMCY, c'est un acronyme de Democracy, la démocratie. Et en fait, c'est très simple, c'est quelqu'un qui hurle en disant il n'y a pas de plan B hein, sur la démocratie. Hein. C'est-à-dire, si on laisse certaines personnes... Alors bien sûr, ça fait le vieux disque. Ce que je suis en train de dire, c'est... Les gens peuvent penser, surtout les gens de droite, hein, c'est-à-dire, ouais, c'est encore le vieux discours du mec qui a peur que la démocratie... Mais la démocratie tient bon, moi je dis qu'elle tient pas bon en ce moment, et que c'est déjà pas super, la démocratie, mais alors là, si vous commencez à la détruire, et donc il n'y a pas de plan B sur la... Parce qu'ils parlent tous de plan B, Mais il n'y a pas de démocratie bi, c'est ça que je dis. Après, je vois sur l'Europe, là on parle de l'Europe, hein. C'est-à-dire je ne parle pas du reste, mais un petit signal qui est pas mal, Orban, qui dégage, c'est pas génial, le mec il remplace, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, parce qu'il bloquait tout lui, moi, tant qu'on n'a pas trouvé un système alternatif, il faut faire attention à la démocratie, quoi. C'est surtout ça.
Vous nous parlez des invités sur ce morceau ?
Il n'y a pas d'invité, c'est de l'IA.
C'est que de l'IA ?
Oui, non, c'est la musique, c'est moi.
Oui,
c'est-à-dire,
bien sûr. Mais les voix ?
Moi, je suis totalement... ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre, les gens ont peur de l'IA. Mais vous avez de l'IA partout dans la musique, là, actuellement. C'est-à-dire, c'est la plupart des musiciens qui sont en retard. C'est-à-dire, l'IA, moi, je la vois sous forme hybride et sous forme, comment dirais-je, de productivité. Quand le sampler, cette machine qui permettait de faire des boucles et de sampler, par exemple, aussi bien Satie que la Tamla Motown, tout le monde hurlait. Moi, j'ai utilisé direct, hein, c'est-à-dire, et bien avant même que les samplers, parce qu'avec quelqu'un comme toi, le titre de Taxi Girl, c'était un Fairlight. Et on pouvait que le louer à l'époque. La flûte de Pan, c'est un Fairlight, hein, et les violons aussi. Et moi, j'ai toujours été fasciné. Là, c'est un outil extraordinaire qui est très pertinent. Là, je ne parle pas des gens qui vont servir. Hein. C'est-à-dire, je parle de l'outil créatif, là. Hein. C'est-à-dire, il faut faire une très grande différence. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour les pauvres gens qui vont servir par l'IA. C'est que je suis convaincu que maintenant, il va falloir, tant qu'on n'a pas trouvé un système, il va falloir un revenu universel minimum. Hein. C'est-à-dire, et pas un RSA à 500 euros. Hein. C'est-à-dire, il va falloir du 2000... Si on vire les gens à cause de l'IA, va falloir compenser quoi.
C'est-à-dire, mais là, vous validez la version des libertariens qui veulent s'accaparer un monopole technologique et financier pour après juste filer quelques...
Non, c'est pas ça. Je parle pas du tout de ça. Je dis juste que la conséquence de... Il y a une moitié des boulots qui vont partir avec l'IA. Et surtout dans les services et pas mal d'artistes, les graphistes, etc. Et peut-être même dans la musique. Ils vont vivre comment ces gens-là ? En attendant de trouver mieux. C'est-à-dire, je dis pas que ça va être contrôlé, c'est les États qui doivent faire ça. Mmh. C'est-à-dire l'État doit compenser, parce qu'on a bien compensé pour le Covid ou pour... alors oui, bien sûr, les comptes, les déficits, etc. Mais on y arrive toujours, hein, c'est-à-dire à trouver de l'argent. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné... sinon, il va y avoir des jacqueries, il va y avoir des révolutions. Alors là, pour le coup, il va y avoir des révolutions, hein, parce que quand vous n'avez plus rien, je dirais même, il y a un livre intéressant de Peter... tu connais Peter Turchin ?
Non.
Le chaos qui vient. Théorie très intéressante. En très peu de mots, voilà ce qu'il dit. Il dit, quand une société produit des élites et qu'il y en a trop, c'est ce qui est arrivé, et donc c'est très détaillé son livre, hein, Le chaos qui vient. Des contre-élites se mettent en place. Des contre-élites. C'est ce qu'on voit en France, hein, c'est-à-dire les contre-élites de gauche, de droite, etc. Parce que quand on produit trop d'avocats, trop de gens intelligents, ils n'ont pas de boulot, ces gens-là, ils reproduisent des contre-élites. Ils deviennent violents, en fait. Donc, tant que les jacqueries, c'est des prolos, c'est des gens, malheureusement, avec la laisse au cou. Mais quand tous ces gens intelligents, et c'est ça qui va arriver avec l'IA, vont se retrouver au chômage, ils vont se réorganiser. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis à un moment donné il va falloir parce que pour une guerre comme on voit en Iran là, c'est-à-dire qui coûte 500 ou 800 millions de dollars par jour, peut-être que ce serait bien de penser au peuple quand même. Et on parle pas du tout d'accaparation de, je vais dire absolument pas, hein, c'est-à-dire l'accaparation avant on parlait du complexe militaro-industriel, là on peut parler du complexe militaro-techno-industriel. C'est juste que les États doivent prendre leurs responsabilités maintenant, puisque on va y assister. Et là cette fois-ci, ça va pas des pauvres prolos qui votent RN, hein. Ça va être des gens de l'élite qui vont se retrouver et ils vont se réorganiser. Vous verrez.
Ça sera l'objet de votre troisième livre, du troisième tome.
Ouais. Pas complètement, c'est que moi je crois au démantèlement. C'est-à-dire, on voit bien à travers l'histoire, les empires tiennent pas. Les empires violents, ils tiennent pas. C'est-à-dire, mais le pire qu'on ait jamais eu, c'était dans les années 30, c'est-à-dire le nazisme et ensuite le stalinisme. Ça n'a pas tenu, ça tient pas. Les gens, ils veulent un moment donné de la paix. Les régimes d'emprise peuvent tenir longtemps, mais pas là. En plus, surtout avec aujourd'hui l'information. Et donc, il y aura. J'aime bien le mot de démantèlement, moi. Parce que ce qu'on est en train d'assister avec Trump, le déclin de l'Amérique. Les gens disent oui, Trump, mais c'est le déclin de l'Amérique au profit de la Chine. On va voir. Et c'est pour ça que je ne dis pas que l'Europe, c'est génial, mais bon, c'est quand même une zone tout petit peu plus protégée, quoi.
Et en tant qu'artiste, vous assumez le fait de presque incarner une forme de devin ou de prophète sur l'avenir de l'époque?
Non, parce que... Alors moi, je répète toujours la même phrase. L'artiste est là pour donner le sens du vent. Il n'est pas le vent.
D'accord. Mais il le sent avant les autres.
Alors, pour quelle raison il le sent? C'est parce qu'il a du temps. Il a du temps. Il a le temps de se reposer. Le prolo de base, ou l'employé de base, le salarié, il est obligé d'aller travailler. Vous pensez que les gens naissent pour... pour aller travailler dans un boulot de merde avec un patron de merde et se faire harceler? Non, la plupart des gens, ils n'ont pas... Et c'est pour ça qu'on parle souvent des vies volées. Parce que vous arrivez, tellement de gens j'ai rencontré qui arrivent à la retraite, à 70 ans, mais merde. Ils disent, voilà ce qu'ils disent. Et ils le regrettent. Ils regrettent d'avoir ou trop travaillé ou de ne pas avoir pris le risque. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, voilà, quoi. C'est-à-dire, c'est que... Il n'y a pas besoin d'être prophète, il faut juste avoir un peu de temps, quoi. C'est-à-dire, et c'est ça, l'artiste, en échange du fait qu'en principe, il n'a pas d'argent, parce que bon, vous n'êtes pas welcome hein, quand vous êtes artiste. Hein, si vous n'avez pas de... Après, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les filières humanitaires, bon, bah, on sait que ça existe, mais il y a les filières artistiques. Et la reproduction, c'est épouvantable, hein, la reproduction sociale, des arts, dans l'art, c'est terrible.
Vous faites dire à votre personnage, la jeunesse, quelle jeunesse, ça n'existe pas?
Ben non, ça n'existe pas. C'est-à-dire
la jeunesse... une catégorie marketing?
Bien sûr. C'est, bon, on a inventé le teenager dans les années 50 avec Elvis, ça a été propulsé. Il y a eu un update justement avec MTV dans les années 80-84. Voilà. Et ça a été intéressant parce que si on regarde bien politiquement ce qui s'est passé, les deux, c'est du soft power. Elvis, évidemment que c'est du soft power, l'Amérique, les chewing-gums, Coca. Bon. Et ben, rebelote en 84, MTV. Et là, c'était beaucoup plus puissant parce que MTV, à l'époque, en 84, je ne savais pas, était présent dans 192 pays. Soft power extraordinaire.
Ben, c'était Madonna et Michael Jackson.
Ben, voilà. Ben oui, alors donc les gens ne comprennent pas ce fait très simple. Ce qu'est le soft power, notamment américain, qui est en train de décliner. Hein. Et parce que c'est très intéressant de parler de musique aussi. Pour ça, parce que la musique est souvent en avance sur les tendances. Aujourd'hui, tout le monde voit, par exemple, qu'à Bercy, il y a tel artiste que vous ne connaissez pas. Pourquoi il remplit tous les jours? Il y en a. On ne les connaît pas. Comment ils y arrivent? Bah, parce que Spotify, c'est la nouvelle règle du jeu maintenant. Et on s'en fout de Spotify, que c'est des arnaques. Enfin, c'est Daniel Ek. C'est juste le système, et au fond, plus démocratique. C'est qu'il réunit... je vais vous prendre un exemple plus simple pour comprendre pourquoi Bercy est rempli, ou le Stade de France, avec des artistes que vous ne connaissez pas. C'est qu'avant, par exemple, on est dans l'hyperfragmentation. Et la société est en train de se hyperfragmenter, comme dans mon livre, comme le langage. C'est qu'avant, les amateurs de salsa, par exemple, allez, prenons la salsa, mais ou de reggae, pour les réunir, on les réunissait à l'Olympia. Là, avec Spotify, c'est hop, c'est très simple. Votre artiste préféré à côté de chez vous, voilà, hop, ils remplissent Bercy et personne n'en entend parler. Voilà. Et en plus, il y a Live Nation, bon, c'est de là, enfin, tout ça. C'est très très bien organisé, hein, c'est-à-dire, ils rassemblent, c'est-à-dire, les moindres personnes jusqu'au fin fond de la France. Et donc, d'une certaine façon, c'est plus démocratique. C'est-à-dire, ensuite, le marché est étendu, puisque cette hyperfragmentation, ça va partout, parce que moi, je veux bien hein, les gens qui parlent du vinyle. Moi, j'ai vécu le vinyle et le studio 24 pistes. Bon, Taxi Girl, vous en sortez, mise en place. C'est comme les livres, hein. On va en parler des livres. Hein. C'est-à-dire, les livres, j'ai l'impression, en 1900, que c'est quand même très, très rétrograde. Hein. C'est-à-dire, mise en place, 5000. Ah, vous vendez pas, 2000 de retour, vous en avez vendu 3000, on vous retire des bacs, vous disparaissez. Spotify, je suis désolé, Spotify, Apple, vous choisissez celui que vous voulez. Vous êtes partout dans le monde, en Patagonie, au Groenland, et donc même si c'est un tout petit peu, au moins, vous avez une chance. que votre musique soit exposée, que quelqu'un, un bon réalisateur, a envie d'utiliser votre musique inconnue. Et voilà, ça, c'est une très grande différence. On est donc... Et la société, ça va être comme ça. Elle va hyper fragmentiser, et c'est normal, et chacun va reprendre ses billes.
Voilà. Vous parliez du soft power américain qui est en déclin, mais qu'est-ce que vous voyez arriver du côté du soft power chinois ou russe ?
Non, ils ne sont pas dans la pop culture, eux.
Bon, voilà, mais justement. Est-ce qu'ils vont poser longtemps ? Est-ce que la technologie et le capital suffit ?
Ouais, mais c'est pas que de la technologie. Regardez le soft power de, par exemple, ByteDance, je sais pas si vous avez entendu parler, qui est pas encore autorisé. Bah, Hollywood, c'est bientôt fini, tout ça, c'est-à-dire les films. Moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas... est en train d'arriver ce qu'on appelle les multicams, c'est-à-dire l'intelligence... Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour faire un film à partir de votre photo, avait besoin de plusieurs éléments. Ce qu'on appelle la consistency, la consistance. Il ne faut pas que d'un plan à l'autre, vous ayez les yeux verts alors que vous avez les yeux marrons. Donc là,
ou on se doit.
On se doit, mais c'est en train d'être réglé. Mmh. Et en plus, vous pouvez le régler avec la jonction, c'est hybride. Quand je vous dis l'intelligence artificielle, c'est un élément de productivité. Vous générez, et ensuite, le 11e doigt, vous l'enlevez par la 3D. Enfin, c'est comme moi, je fais avec la musique. La musique, c'est moi. Si j'ai envie de produire la voix, je la produis. Si je n'ai pas envie de la produire, ou alors je la change, ou on peut modéliser. Il y a énormément de choses à faire. Donc, je suis désolé, quoi. C'est-à-dire, évidemment, les œuvres vont rester plutôt américaines pendant un bon bout de temps, mais rien ne garantit ça. Hein. Rien ne garantit ça.
Vous faites dire à votre personnage... Le rêve de la célébrité, tu vois, c'est du poison de la soule, de l'âme. Hein. Une vraie race drazénique. Perso, je l'ai plus que touché du doigt. Et je vous dis, la fame, c'est de Nietzschevo, juste du bruit et de la fumée. Est-ce que vous avez déjà aspiré à redevenir anonyme, Mirwais ?
Mais je le suis. Vous savez, je vais vous dire, je vais faire une petite confidence. Si vous voulez vraiment qu'on vous reconnaisse dans une société d'hyper-attention, il faut vraiment que vous entreteniez votre image, hein. Tous les jours, je marche dans la rue, personne ne me reconnaît. Parce que d'abord, après, pardon, petite seconde.
Je vous en prie.
Aujourd'hui, je pense que les gens qui sont célèbres le cherchent. Ils le cherchent.
Oui, alors, dans la rue, effectivement, on ne vous reconnaît pas, mais quand vous arrivez dans le milieu musical ou quand vous arrivez à des soirées ou dans... Ou dans le...
Je ne sors pas dans les soirées.
Mais en tout cas, dans le milieu musical. Dans le milieu musical, vous savez votre présence, ce qu'elle peut déclencher éventuellement auprès de jeunes musiciens ou des jeunes artistes.
Ils s'en foutent, et c'est tant mieux. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre des jeunes musiciens, ça dépend dans le style dans lequel ils sont. Ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à battre. C'est-à-dire.
Attendez, quand on a produit Madonna, vous n'avez pas eu des tonnes de chanteuses ou de qui sont venues vous voir avec des intentions plus ou moins claires pour que vous les produisiez ?
Oui, mais je ne l'ai pas fait, ou très peu. Très peu, moi, je vois l'intérêt artistique dans l'histoire. Ensuite, au passage, c'était pas le rêve de ma vie d'être producteur. Hein. Moi, je suis artiste pour moi-même. D'ailleurs, je reprends les choses pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous savez, la célébrité, c'est un truc de branque, je pense. C'est-à-dire, les gens qui cherchent ça, parce que, regardez, je reviens à l'hyperfragmentation. Qu'est-ce que vous en foutez d'être célèbre physiquement, on parle physiquement, à partir du moment où vous remplissez le Stade de France et vous gagnez plein de bif, comme je dis, dans le plein de fric, qu'est-ce que vous en foutez? C'est-à-dire, l'époque a changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez avoir des carrières, faire des milliards de streams sans que les gens vous connaissent réellement. Moi, je trouve ça pas mal. C'est du faceless. Donc, les gens qu'on veut voir, c'est du old school qu'on voit. Et aussi, c'est pour le côté live. Bien sûr, quand vous commencez à faire du live, vous avez besoin d'avoir le retour des médias. Ça, je suis d'accord. Mais c'est comme la littérature. On parle de littérature. Bon, j'ai cassé un peu... Ça, non, c'est dans mon livre, mais en fait, moi, c'est mon troisième livre, je m'aperçois que ce qui est important, c'est la critique et la mise en place et les bonnes interviews, comme on fait là. Mais sinon, ça, c'est quoi aller faire le people ? Parler une énième fois de Madonna, ça ne fait pas vendre de livres. Ça ne fait pas vendre de livres.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanray, en présence de Mirwais, qui nous parle de son dernier livre, Nihilium, paru aux éditions Séguier. Alors, ce nouvel album, quand est-ce qu'il sort ?
Bah, En fait, j'ai un album depuis des années et des années, mais qui est old school, qui est, beaucoup de chansons sont terminées et je me voyais pas le sortir justement comme d'une manière découpée comme le font. Bon, j'ai changé d'avis, mais entre-temps, avec l'IA, alors, attention, hein, je suis pas le prophète de l'IA, hein, c'est, moi c'est un outil de productivité. J'ai un album extraordinaire que j'ai envie de sortir là, peut-être en septembre. Avec des musiques, c'est-à-dire en fait, ça sera la bande-son de Nihilium. Comme ça, ça me permet de toucher à des musiques très différentes, parce qu'une bande-son pouvait très bien passer comme dans un film de Kubrick, de Puccini à Wendy Carlos ou au vocodeur. Et donc, je peux toucher à beaucoup de styles qui m'étaient intouchables avant, avec ma patte, mes paroles, ma production et aussi ma voix. Vous voyez, c'est un mélange hybride. Moi, je crois beaucoup à l'IA. On parle d'IA artistique. Hein. Je ne parle pas des gens qui vont servir, parce que ça, c'est un vrai problème et on en a parlé. L'IA artistique, c'est un outil. Et donc, nouvel outil, vous n'allez pas le refuser. Hein. C'est-à-dire, quand c'est un nouvel outil artistique, il faut l'utiliser, mais d'une manière intéressante et artistique. Voilà.
Je repense à ce personnage qui se retrouve à Rome dans un musée et qui prend une claque littéralement face à un Caravage.
Oui, oui, ça m'est arrivé aussi. Voilà. Il est très beau, celui-là.
Est-ce que la beauté peut sauver le monde ?
C'est une question complexe. Instinctivement, de manière psychanalytique, je répondrais non. Après, la beauté, c'est aussi un outil qui est utilisé pour dominer les peuples aussi. Hein. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que
enfin, chaque peuple crée son art et sa beauté.
Ouais, mais là, on est dans la pop culture maintenant. On n'est même plus dans. Comment dirais-je dans, c'est-à-dire, le niveau a quand même extrêmement baissé. Alors, il y a des gens qui vont dire. Ce qui est marrant, c'est que quand une personne comme moi dit, ouais, qui est un peu plus âgée maintenant que la moyenne, je dirais, dit, ouais, le niveau a baissé, il y a toujours un universitaire de mon âge qui dit. Mais non, c'est formidable, les jeunes, ils réinventent. Moi, le livre que je viens de faire, Nihilium, il n'y a personne qui l'a fait au monde, à part peut-être Anthony Burgess. Et j'ai pas 19 ans. C'est-à-dire, et lui, il parle comme un jeune d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est un jeune très pervers d'aujourd'hui et complètement délirant. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand le discours du vieux con, parce que le vieux con, il a raison, très souvent. C'est-à-dire, mais attendez, moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je fais de l'IA, bon, voilà, j'accuse personne là, hein, je vais accuser personne, mais ils sont tous là à se branler avec Rosalia, regardez, elle fait de l'opéra. J'ai fait écouter à quelqu'un qui adore l'opéra. Il m'a dit, mais c'est quoi cette merde ? C'est-à-dire, mais la voix, elle est tout au fond, et c'est très très raide, hein, et ça me fait beaucoup penser, alors là, c'est pas l'IA, mais un Carmon Quartet, Native Instruments, parce que j'utilise, c'est des outils de c'est des plugs, des plugins. Et il y a l'IA derrière, hein, c'est clair. Hein, c'est-à-dire, et bon, ça ressemble quand même à un mélange. Pour moi, je critique pas trop. Je l'aime bien en plus le titre, mais ça fait très un mélange entre Vivaldi et Rondo Veneziano, quoi. C'est-à-dire, ils sont tous là à dire génial, et ils s'agenouillent devant elle en disant génial, alors qu'à mon avis, elle a utilisé de l'IA certainement pour la compo. Donc bon, et vous voyez, et le problème, c'est comme ça que les gens s'introduisent, c'est-à-dire le marketing en fait. C'est qu'on prend un universitaire comme celui qui disait que Booba c'est Rimbaud, moi je suis pas d'accord. Hein. Booba c'est pas Rimbaud. C'est-à-dire, c'est pas mal ce qu'il fait, mais c'est pas Rimbaud, rien à voir. Donc, et donc il y a toujours un universitaire pour valider, un peu comme vous savez le Salvator Mundi. Vous connaissez cette histoire du Salvator Mundi qui était une œuvre d'atelier de Leonardo da Vinci, oui, oui. Qui a été restauré pour $1 million. Il y a un documentaire extraordinaire qui a été fait sur ça. Pendant 10 ans, il a tenté de le faire valider par tous les musées. Tous les experts disaient non, c'est une œuvre d'atelier. Le British Museum l'a validé. Et maintenant, de main en main, c'est l'œuvre la plus chère au monde. $500 million, c'est un faux. Donc voilà. Donc c'est là le problème de la validation aujourd'hui.
Pensez que la pop culture a tué l'avant-garde et...
Ah ouais, c'est clair.
Vous participez aussi à un autre livre qui va paraître chez Grasset et Séguier, oui. Qui s'appelle Nouvelle d'Eros, Dernière Nouvelle d'Eros.
Oui, oui, oui.
Vous pouvez nous en parler ?
Oui, oui, bien sûr. C'est, Olivier Guez, qui est l'auteur de La disparition de Mengele, entre autres, qui m'a abordé via mon éditeur, Jean Le Gall. Donc moi, je suis édité chez Séguier, tous mes livres. Et c'est un livre de recueil où il y a pas mal d'écrivains, il n'y a pas que moi, et c'est des nouvelles sur la sexualité. Et au début, très honnêtement, je me disais, c'est pas pour moi, parce que bon, les nouvelles. Puis finalement, j'y suis allé et je suis audité au même titre que ces auteurs. Donc, je crois qu'il y a Folkinos, Leila Slimani.
Estelle Taillard, Olivier Chemelin.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça sort là bientôt. Et c'est assez marrant parce que, comme avec Taxi Girl, ce qui est très bizarre, c'est qu'on se retrouve toujours au milieu de quelque chose, là, parce qu'il y a cette espèce de truc avec Nora.
Viré par Bolloré.
Viré par le méchant Bolloré. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est un livre de l'ère Nora qui sort, puisque moi-même, j'étais en contact par email avec lui au moment de parler de ce livre. Et donc, ça sort bientôt, là. Donc, on va voir comment ça va être accueilli. On va voir je crois que les écrivains ont envie de défendre. Donc, peut-être ça va être. C'est quand même assez marrant, alors que j'ai rien demandé là pour le coup. C'est juste une nouvelle. Hein, mais mon titre est pas mal. Hein. Donna Fascista.
Merci beaucoup, Mirwes, d'être venu dans La vie est un roman, nous parler de votre travail de musicien et d'écrivain, surtout, votre actualité. Merci beaucoup à René Clancy qui a assuré la régie. Je vous rappelle que si vous voulez défendre la liberté et l'indépendance de Radio Aligre, c'est possible. Vous allez sur le site, vous allez dans la rubrique « Appel aux dons », c'est déductible d'impôt, et vous pouvez comme ça nous soutenir et nous encourager. Yves, cette émission, elle est encore pour toi. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec Arnaud Robotini.